Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la musique. Ce soir, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis se font face à notre affiche Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, dirigée par Philippe Jordan, mise en scène par Damiano Micheletto jusqu'au 5 novembre à l'Opéra Bastille. Nous parlerons également de Parsifal de Richard Wagner, mise en scène Dmitri Tcherniakov, dirigée par Daniel Barenboim. C'est une sortie en Blu-ray et DVD chez Bel Air Classique. Et puis un disque, concerto pour deux violons d'Antonio Vivaldi par Giuliano Carmignola et Amandine Beyer, c'est chez Harmonia Mundi. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour débattre avec elle d'un sujet lié au champ artistique dont nous parlons ce soir. Et puis bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des places de cinéma pour le film Poesia sin fin de Alejandro Jodorowsky, actuellement au cinéma. Et nous ouvrons cette émission nous rendant à l'Opéra Bastille pour découvrir une nouvelle production lyrique de l'Opéra de Paris, Samson et Dalila, opéra en trois actes et quatre tableaux de Camille Saint-Saëns sur un livret de Ferdinand Lemaire, un opéra qui sera retransmis, notez-le, en direct le 13 octobre dans de nombreux cinémas en France, cinéma UGC et cinéma indépendant. Il sera également diffusé sur Arte Concert à partir du 14 octobre, donc si vous ne pouvez le voir à Bastille, vous pourrez y accéder sur grand ou petit écran, également plus tard à la radio, on écoute sur France Musique, date à venir. C'est en 1877, que, dans une version allemande, que cet opéra a été créé à Weimar, grâce à Franz Liszt, mais seulement en 1890 pour la création française, au Théâtre des Arts de Rouen, puis en 1892 au Palais Garnier à Paris, mais ensuite l'ouvrage a fait partie des opéras français, nous dit-on, les plus joués au monde. Cela faisait 25 ans que l'Opéra de Paris ne l'avait pas programmé. Philippe Jordan est donc dans la fosse. Damiano Micheletto signe la mise en scène. On peut rappeler que l'histoire s'inspire d'un épisode de la Bible où parmi les Hébreux arrivés en terre promise se trouve le très fort Samson, une force donnée par son alliance avec Dieu, mais la Philistine d'Ali Lila va le charmer pour percer le secret de cette force et enfin pouvoir venger son peuple. On écoute un extrait de cette œuvre, c'est Dalila et le grand prêtre dans l'acte 2.
C'est encore notre Dieu, daignez tendre son bras, vivant pour sa gloire. Oh, Je m'éloigne, vous pourrez nous surprendre. Bientôt je reviendrai par de secrets chemins. Le destin de mon peuple aux femmes est dans tes mains. Déchirez de son cœur invulnérable écorce et surprend le secret qui nous cache sa faute.
Voilà pour cet extrait de Samson et Dalila, actuellement à l'affiche de l'Opéra de Paris, jusqu'au 5 novembre. Emmanuel Dupuis, avez-vous passé une bonne soirée?
Ça dépend.
Je l'ai jamais faite, celle-là.
Oui, non, jamais. Non. Ça dépend de quel point de vue on se place.
Bah, prenez celui qui vous intéresse d'abord.
Musicalement, oui, j'ai passé une bonne soirée. Globalement, une bonne soirée. Si je considère ce qui touche à la direction musicale notamment, parce que d'abord le chœur qui a un rôle très important dans son Sonsaï Dalila, je trouve c'est surpassé. Il était vraiment, je trouvais le chœur d'une cohésion vraiment exemplaire. Et Philippe Jordan a traité cette masse chorale toujours en osmose avec l'orchestre. Façonnant une espèce de masse sonore, un mouvement qui avance irrémédiablement. Et notamment au début, c'était assez fascinant comment on se laissait porter par cette espèce de fleuve sonore, et en même temps il y avait un sens du détail instrumental très très fin. Alors on peut trouver cette approche un petit peu hédoniste. Pour ma part, je trouvais que notamment à l'acte 2, ça manquait un petit peu d'animation, mais voilà, c'était quand même extrêmement bien réalisé et très séduisant.
C'est-à-dire qu'on était plus dans le plaisir de la musique que dans le sens dramaturgique de l'œuvre?
Oui. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de toute façon, dès le départ, sur le papier, il y avait un problème avec la distribution. C'est que, bon, Samson et Dalila, comme vous l'avez dit, c'est un pilier du répertoire français, présenté sur la première scène lyrique française, avec quasiment aucun chanteur français dans la distribution. Il y a deux exceptions, c'est Nicolas Testé et Nicolas Cavalier. Or, ils ont tous les deux des petits rôles. Et c'est le seul moment, quand ils apparaissent, où on peut vraiment décrocher le regard des surtitres. Donc c'est quand même un gros
sur
problème.
Sur la compréhension de la langue française.
Exactement.
On l'a entendu dans cet extrait.
Oui, le chant, c'est aussi
la
déclamation. Or, il faut dire quand même que ce problème est un petit peu atténué grâce à Anita Rachfelishvili, bien qu'elle soit géorgienne, parce qu'elle a malgré tout une diction plus que correct, on l'a entendu là dans le petit extrait, et surtout c'est un mezzo à la fois opulent et venimeux avec de très très beaux phrasés. Ce qu'elle fait de son premier air est absolument magnifique. Elle fait une sorte de prière méditative sur le souffle. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment une très très belle Dalila, bien qu'elle ne soit pas aidée par ses costumes.
Alors, on va revenir sur cet autre sujet, peut-être rester sur la dimension musicale, Emmanuel Giuliani.
Oui, comme Emmanuel, j'ai trouvé en effet qu'il y avait un très beau travail d'orfèvre orchestral et choral. Je mettrais un petit bémol sur la fin de l'acte 1 où j'ai trouvé que ça envoyait un peu trop et ça saturait un peu. Et voilà, entre l'opulence et la douleur que commence à créer un son trop fort, moi je commençais à franchir le seuil de la douleur. Mais à part cela, en effet, c'est une très belle direction qui met, bon, moi, c'est un problème un peu personnel. Je me dis toujours que Philippe Jordan, avec les moyens de communication qu'il a su établir avec l'orchestre, avec le chœur, etc., pourquoi n'en voit-il pas plus de charge émotionnelle? N'arrive-t-il pas à en créer plus du côté de l'orchestre? Voilà, ça manque de drame. Et
oui,
c'est vrai que dans cet opéra.
C'est le côté hédoniste dont je parlais.
Voilà, c'est ça. C'est, et qui fait qu'on n'est pas, il n'y a jamais de transe, il n'y a jamais de moment où on se dit, tiens, je suis un mammifère qui respire, il s'agirait que je reprenne mon souffle. Jamais on se dit ça. On se laisse aller avec bonheur, mais on n'est pas bousculé. Or, dans dans un ouvrage comme cela, qui, comme beaucoup de grands opéras du 19e, où la frontière entre le ridicule et le sublime est toujours très ténue, notamment quand il y a une telle mise en scène, on va en parler, qui n'hésite pas du tout entre les deux et involontairement, j'ose l'espérer, plonge vraiment totalement du côté du ridicule. C'est très difficile, la musique a beaucoup de boulot pour sauver cela. Elle, elle y arrive, tout à fait. Elle y arrive, et surtout, mais elle est un peu seule au milieu d'un univers où on se dit que les autres font ce qu'ils peuvent, en tous les cas Sanson, qui a beaucoup de mérite. Alexandre Donenko, c'est un rôle terrible. Hein.
Il faut dire quand même que c'est le seul aujourd'hui, le seul titulaire du rôle aujourd'hui qui arrive, effectivement.
Voilà. Alors, il n'y arrive pas toujours parfaitement bien, mais enfin, il y arrive quand même, et avec une grande intégrité. Et même si on sent qu'il sent lui-même qu'un pianissimo va pas marcher, il le fait quand même, parce que la nuance est demandée par Saint-Saëns. Donc ça, il y a une très grande intégrité. Dans les petits rôles, c'est pas très bien distribué, même assez mal. Moi, je dirais qu'il y a juste Nicolas Cavalier, qui, même s'il n'a plus la voix aussi merveilleuse, est magnifique, parce que le français, comme toutes les langues, mais nous, on n'est plus à même de parler du français, il y a la diction, mais il y a le flux de la langue. Il y a le fait de ne pas s'écrabouiller sur les finales comme fait Eglise Sillins, qui a un chant complètement débraillé. Il n'y a pas que le fait de comprendre les mots. Il y a être dans le mouvement et le flux de la langue. Et ça, à vrai dire, à part Nicolas Cavalier, je trouve que personne ne l'a.
C'est vrai.
Ce qui est un peu gênant.
C'est quand même un problème. Ouais.
Alors, moi, j'ai pas encore vu cette production, mais Lucille Como, si. Alors, premier sentiment,
alors,
Lucille.
Moi, c'est une œuvre que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'y suis allée avec beaucoup de curiosité. Et j'ai trouvé, alors, peut-être que vous allez me contredire, mais qu'elle n'était pas facile à entendre du tout. J'avais vraiment l'impression que c'est une œuvre qui est un peu clivée, c'est-à-dire elle a été voulue au départ comme un oratorio, elle a été laissée sur le métier puis reprise par Camille Saint-Saëns. Donc il y a des passages qui sont très solennels, qui sont en effet des sortes de messes avec des unissons, quelque chose de très liturgique. Et puis il y a des passages très neuneux, j'allais dire, enfin beaucoup de harpes qui sont plus du côté de la mélodie,
même de
chansons, de chansons. Oui, ils ont du boulot et de chansons un peu même populaires. Donc en effet, il y a des airs que j'ai reconnus parce qu'ils font partie de notre inconscient musical. Et moi j'ai eu du mal à l'écouter déjà. Et j'ai trouvé que la mise en scène avait du mal aussi peut-être à l'écouter parce que ce clivage-là.
Alors, enchaîné sur la mise en scène. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces chansons et Dalida?
Le problème, c'est qu'on voit énormément de choses. C'est-à-dire que ça commence... l'ouverture est très belle. Enfin, moi, la première image m'a convaincue. J'aurais aimé rester sur cette première image, puisque le rideau se lève et on ne voit qu'un vaste mur de grillage très serré devant lequel se tient Sanson. Il lit ce qu'on saura après être un exemplaire de la Bible. Puis le grillage se lève et là, ça commence à être n'importe quoi. Ouais. Donc, il y a à la fois des références un peu, je dirais, soviétiques, donc dans le décor, avec quelque chose de très vertical dans un premier temps, puisqu'on a un cadre en hauteur et puis en dessous se tient le peuple des Hébreux. Donc, c'est très clair. Il y a le peuple des Hébreux en bas et les Philistins au-dessus. Il y a des éléments qui nous font un peu penser à la mafia russe. Alors, le grand prêtre, là, qu'on a entendu dans l'extrait, pour une raison inconnue, ressemble un peu à Vladimir Poutine ou quelque chose de politique russe un peu véreux. Elle, Dalila, ses costumes, en effet, mais le costume est vraiment important parce que du coup, ça marque vraiment les personnages. On ne comprend pas la cohérence, absolument pas la cohérence des costumes.
Qui ressemble à quoi pour Dalila?
Alors, elle a une sorte de chemise de nuit qui ne lui va pas,
Voilà,
vraiment, c'est difficile. Enfin, c'est vraiment dur pour. Enfin, moi, je trouve que c'est dur d'imposer ça aux chanteuses. Avec, alors, moi, je trouve le pire, c'est pas la nuisette, c'est l'espèce
de manteau,
peignoir manteau qu'elle a par dessus, donc avec lequel elle joue, mais de manière extrêmement caricaturale. En effet, elle s'en sort pas si mal que ça par rapport à Sanson, par exemple, qui a une perruque. Évidemment, une sorte de perruque avec une petite queue de rat un peu longue dans le dos. C'est à la fois ridicule et démonstratif. Donc évidemment, on attend que la queue de rat soit coupée. Donc voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. À la fin, donc à Bacchanal, d'un seul coup, alors qu'on était dans quelque chose d'assez sobre, on a une débauche de costumes, de couleurs, etc. Finalement, on ne trouve pas vraiment la cohérence et on a l'impression que la mise en scène peut-être n'a pas réussi justement à faire le lien entre ces passages d'un opéra qui, de mon avis, est assez composite en fait.
Oui, parce que le souvenir que j'ai de Damiano Micheletto, c'était le Barbier de Séville qui était quand même d'une rare laideur à l'Opéra de Paris et qui surtout n'avait pas, me semble-t-il, de lecture de l'œuvre. Est-ce que là, vous avez... parce que Moi, je vois plus comme un décorateur que je trouve de mauvais goût, mais chacun ses goûts, après tout. Mais surtout, est-ce qu'il y a une lecture de Sanson et Dalila,
Emmanuel Giuliani ? Comme j'ai eu l'impression que c'était un peu la mafia ou un milieu qui s'en est sorti par la violence. Parce qu'il y a les nuisettes et les kalachnikovs.
Oui, inévitable.
Il n'y a pas de chien loup.
Au bout d'un quart d'heure, on a le droit au kalachnikov. Jour où on ne verra plus de kalachnikov sur la scène de l'Opéra de Paris, je pense qu'on se portera mieux.
Mais à mon avis, ce n'est pas de mal avec.
Donc un milieu.
Voilà, un milieu qui triomphe par la violence des armes et par l'argent et qui a opprimé un peuple. Bon, il se trouve que ce peuple-là a une référence à l'Éternel, à la Bible, etc. Mais on pourrait très très bien s'en passer. On ne sent aucune dimension spirituelle et mystique. Absolument pas. Ce qui est quand même
un peu gênant pour Sanson et Dalila tout de même.
Et comme on ne sent pas vraiment de passion amoureuse destructrice entre Sanson et Dalila, parce que le second acte, ils sont dans une espèce de vague d'immense chambre d'hôtel qui est en fait la chambre de la villa du nabab du milieu. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. À vrai dire, j'ai eu un peu la flemme de chercher à vraiment comprendre. Ils arpentent cette chambre avant une misérable petite chorégraphie sur le lit où ils sont, parce que elle a toujours sa nuisette et lui, il a Marcel sous sa chemise.
Les Marcel.
Oui, mais.
On en mange.
Voilà, c'est pas.
Emmanuel
c'est
Dupuis.
Pas possible.
Non, mais moi j'ai eu l'impression de voir un spectacle qui datait d'il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire, avec tous les lieux communs de la mise en scène contemporaine. Effectivement, à la base, c'est quand même un drame biblique.
Alors
là, cette dimension spirituelle, ça devient un fait divers, tout simplement. Bon, et il y a pas vraiment d'idée. La seule idée, c'est qu'à la fin, Dalila aide Sanson à accomplir sa vengeance, ce qui n'est pas écrit dans le livret. Mais bon, ça change pas grand-chose à l'affaire, et ça change pas.
Là aussi, ça vient de nulle part, quand même.
Non, ça vient de nulle part. C'est vrai. C'est on se dit pourquoi pas, mais temps pourquoi, quoi.
Oui.
C'est bon. Et ça change rien, surtout au sentiment de laideur qu'on sent quand même tout au long de la soirée, parce qu'effectivement, cette question des costumes, c'est quand même.
Ça donne le là, si je puis dire, d'une mise en scène aussi.
Oui, et puis vis-à-vis des artistes.
On en reparlera tout à l'heure avec Parsifal.
Vis-à-vis des artistes, vis-à-vis des chanteurs, c'est quand même assez assassin, quoi. Je veux dire, quand on a une fille comme Anita Rachelichvili, qui n'a pas, disons. Elle n'est pas physique ingrate.
C'est pas Barbara Hannigan.
Voilà, il faut savoir la mettre en valeur, quoi. Or là, bon, c'est totalement à côté
de
la place.
Et habillée comme il se doit, elle pourrait être très belle. Exactement. Elle a beaucoup d'allure.
Exactement. Donc ça dessert la vision du personnage, très simplement.
Totalement. De toute façon, la séductrice, là, on se dit, elle est où, quoi.
Elle a paradoxalement une chevelure, enfin, heureusement pour elle, je l'envie beaucoup, une chevelure absolument magnifique. Mais ce que disait Lucille, c'est donc totalement grotesque de se dire, de la force de Sanson, en fait, vient des cheveux de Dalila.
Ouais.
Voilà, on en est là. Et je me demande si en fait l'affaire de aider à la vengeance ne vient pas. Il savait que nous allions parler de Parsifal et il fait de Dalila une espèce de Kundry qui est à la fois la méchante et la gentille en même temps. Et voilà. Je ne vois pas d'autre explication.
Lucille, pour terminer.
C'est vrai qu'elle a vraiment du mérite, cette chanteuse, parce que même habillée comme ça, même avec cette chevelure et même dans ces scènes vraiment extrêmement de mauvais goût, de pseudo sensuel, alors que vraiment, Sanson et Dalila, il y a quelque chose de spirituel, mais il y a aussi quelque chose à faire là-dessus.
Vraiment
le désir
qui est plus fort que tout.
C'est vraiment, il n'y a rien là-dessus. Enfin, c'est une catastrophe, c'est vraiment ridicule. Elle arrive quand même à tenir quelque chose et à avoir une présence sur scène qui est vraiment impressionnante.
Non, heureusement qu'elle est là, si je vous comprends bien. Et Emmanuel Dupuis, pour finir.
Cette pantomime ridicule à la fin qui meuble la bacchanale, parce qu'en fait, la bacchanale, cette pièce orchestrale très célèbre qui est au cœur du troisième acte, c'est un ballet, c'est fait pour être dansé. Or là, évidemment, on n'assume pas la nature chorégraphique de cette pièce, et il y a une espèce de bacchanale qui se veut une pseudo-partouze. Enfin, c'est assez ridicule, quoi. C'est moche, quoi, tout simplement. Donc, c'est un spectacle qui est vieux avant d'être né, quoi. C'est tout simplement.
Peut-être juste, parce que c'est dur de finir là-dessus, que, en fait, tous les éléments de mise en scène, à mon avis, ne sont pas des mauvaises idées en soi. Par exemple, la bacchanale, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est l'assemblage de tout ça.
Oui, mais enfin,
il n'y a pas de vision globale.
C'est la réalisation, quand même. La réalisation est quand même.
Il n'y a pas de vision globale.
Il n'y a pas de virgule, des... ça c'est le moins qu'on puisse
dire.
Il
n'y a pas une attitude, un geste qui soit beau.
Oui, c'est ça, voilà.
Quelques lumières à certains moments, en effet, sur cette grille dont vous parliez, Lucine, mais jamais, même pas beau esthétiquement, mais qui provoque, une espèce de dilatation, de... Voilà.
Oui, voilà,
jamais, jamais.
Bon, à voir avec les oreilles, vraiment. Ce chanson est d'Aline Lindes, Camille Saint-Saëns, dirigée par Philippe Jordan. Mise en scène donc d'Amiano Micheletto, qu'on salue, jusqu'au 5 novembre à l'Opéra Bastille. Donc je l'ai dit le 13 novembre, non c'est pas possible, c'est pas le 13 novembre, ça finit le 5. Parce que le 13 novembre en direct, je vois pas comment c'est possible, je dois avoir une information.
Dans le cinéma c'est le 13 octobre.
Ah, 13 octobre, voilà, monsieur, voilà, je prends mal mes notes, c'est tout. 13 octobre en direct dans de très nombreux cinémas en France, voilà, c'est une autre façon de découvrir l'opéra. Et donc c'est à partir du 14 octobre, bien sûr, sur Arte Concert.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du DVD donc de Parsifal de Richard Wagner, mise en scène Dmitri Tcherniakov, direction de Daniel Barenboim, du CD Les Concertos pour deux violons d'Antonio Vivaldi par Giuliano Carmignola et Amandine Beyer. Pour l'instant, suivons Lucille Comeau dans le petit salon. Dans un souci de grande cohérence, après Camille Saint-Saëns, on continue avec la musique française, Lucille.
Tout à fait. Le 21 septembre dernier, c'était sur France Musique, le chef d'orchestre Stéphane Denève était invité pour parler, entre autres, de deux concerts donnés à la tête de l'Orchestre National de France, au programme, entre autres, Milo, Saint-Saëns, Poulenc, Connaisson, répertoire français donc. Stéphane Denève remarque alors, au micro de Lionel Esparza, je cite, « Les musiciens du National mettent parfaitement en œuvre l'esprit français ». Alors j'avoue ne jamais avoir nettement saisi ce qu'était l'esprit français. Je me souviens d'une conversation avec un autre chef, Michel Plasson, spécialiste de musique française, qui a dirigé de très nombreux opéras français et qui regrettait, un peu à l'inverse de Stéphane Denève, que les musiciens français ne soient pas formés et donc pas bons dans le répertoire de la musique française. En l'occurrence, il parlait surtout des chanteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'esprit français? Et en particulier, est-ce qu'il existe une manière française pour les orchestres? À l'heure où les musiciens se forment un peu partout, ont des professeurs de différents nationalité, on peut douter de la permanence d'une telle identité musicale. Quoique, certains chefs, y compris des chefs étrangers, évoquent cet esprit français, moins d'ailleurs pour décrire une manière de jouer qu'une manière de se comporter, de supporter l'autorité, et en général, ce n'est pas très louangeux. Marc Mimkowski, par exemple, qui n'est pas très connu pour être tendre avec les interprètes par ailleurs qu'il dirige, remarquait « En France, on est dans un esprit de contestation » permanent. Stéphane Denève lui-même en avait fait les frais, lui qui avait été débarqué pendant une répétition houleuse à l'Opéra de Paris et qui avait alors décidé d'aller voir ailleurs. Là, il revient en France, mais après des années d'absence. Alors, est-ce qu'un orchestre qui joue français, c'est un orchestre qui joue un répertoire français? Dans ce cas, n'importe quel orchestre de n'importe quel pays, sachant jouer Poulenc ou Saint-Saëns, émanerait l'esprit français. Ça supposerait une cohérence stylistique du répertoire national. Alors, c'est pas exactement ce que dit le chef Denève, qui évoque, lui, une alchimie spécifique entre les musiciens et un répertoire qui leur serait plus familier, car compatriote. Dernière hypothèse, pardon, est-ce qu'un orchestre français, c'est un orchestre qui joue sous la baguette d'un chef français? Alors là, force est de constater de ce point de vue la rareté des chefs français à la tête des grandes maisons. Je sais que c'est un sujet qui intéresse Emmanuel Dupuis, en dehors de Casatsu à Lille, qui va d'ailleurs être remplacé par un jeune français, Alexandre Bloch. Il y a Emmanuel Crivine aussi qui s'est nommé il y a peu à Radio France. Il y a peu de chefs français en France. Alors à supposer qu'il existe, à quoi tient donc cet esprit français?
Voilà, c'est une des marottes d'Emmanuel Dupuis, pas seulement les chefs français à direction des phalanges françaises, mais l'esprit français en musique,
on s'entend. En réalité, vous savez, moi je me méfie beaucoup de ces questions d'identité nationale appliquées à la musique, parce que bon, la musique, comme chacun sait, c'est le langage le plus universel qu'il soit, et il y a beaucoup d'orchestres américains, je pense à Boston, Cleveland, qui joue très très bien la musique française. Et quand l'Orchestre de Paris a joué l'Electra de Strauss sous la direction de Salonen pour la mise en scène de Chéreau, il a été encensé dans le monde entier. Donc,
à juste titre.
Voilà. Bon, après, ce mythe de l'esprit français, C'est un héritage de l'histoire, parce qu'effectivement, quand on écoute les disques des années 1950 et 1960, on se rend compte effectivement qu'à l'époque, le son des orchestres français était vraiment très différent du son des orchestres allemands, et ça tenait beaucoup à des questions de facture instrumentale. Les instruments français, notamment les instruments avant, étaient beaucoup plus clairs que les instruments allemands. D'où cette différence d'identité sonore. Bon, après, il y a des différences, effectivement, dans le comportement. Ça, on l'a dit. Effectivement, les musiciens français sont connus pour être très indisciplinés et plus individualistes que leurs homologues allemands qui ont peut-être plus
l'esprit de corps
et de l'esprit de cohésion. Et après, bon, il y a effectivement tout simplement une question de culture musicale. C'est vrai que l'Orchestre National de France, par exemple, a beaucoup joué la musique française au cours de son histoire, moins au cours des années récentes, puisque bon, son directeur musical pendant plusieurs années a été Kurt Mazur, qui au contraire a élevé cet orchestre au grand répertoire germanique. Alors, on peut le déplorer en même temps, parce que, voilà... Peut-être que dans Mahler ou Bruckner, les orchestres français ne feront jamais aussi bien que les plus grands orchestres allemands, et que peut-être que les orchestres français devraient davantage cultiver leur propre répertoire. C'est une question, effectivement, mais malgré tout, bon, tout ça, aujourd'hui, n'a plus beaucoup de sens, en réalité.
Emmanuel Giuliani.
Je ne vois pas ce que je peux ajouter, c'était tout à fait lumineux. C'est vrai que quand un chef parle de l'esprit français ou du son français, il entend, quand il veut être louangeur, une transparence, une belle identification des différents plans sonores, des vents particulièrement, avec des timbres particulièrement boisés, clairs, scintillants. Voilà, on emploie souvent ces termes de scintillant, de lumière, de transparence. Ça revient assez souvent. Et en creux, ça veut dire que peut-être, là où ça pêchera, où ce sera, disons, moins opulent que dans les orchestres allemands notamment, ce sera le moelleux et la profondeur des cordes. On aura peut-être des violons un petit peu plus acidulés et moins veloutés, des contrebasses et des violoncelles moins profonds qui iront moins... C'est vrai que dans les grands orchestres allemands, on a l'impression qu'ils vont chercher le son au fond des entrailles de la terre. On l'aura peut-être moins dans les orchestres français. Mais après, il suffit en effet de travailler avec un chef, d'avoir envie de servir au mieux une œuvre ou un répertoire. À force de travailler les symphonies de Mahler qui sont maintenant au répertoire de tous les orchestres internationaux, je pense que la plupart des phalanges servent bien la musique de Mahler. Après, il y a des niveaux d'orchestre, mais il y a des très bons orchestres français et des moins bons, de même qu'il y a des très bons orchestres anglais et des moins bons. Quant à l'esprit, un orchestre ne serait qu'une somme d'individualités, de formidables solistes qui ont peut-être plus de mal à abdiquer leur ego pour servir la cause commune, et un anonymat en tous les cas individuel pour être le groupe vis-à-vis du chef, là ça dépend aussi énormément de la relation au chef d'orchestre.
Bien sûr.
Et je ne crois pas que les Français frondeurs ont besoin de quelqu'un qui leur serre la vis, parce que s'il ne va pas avec un immense respect, une immense compétence, ça ne marchera pas, ni un copain super cool, voire laxiste, qui leur dira vous êtes géniaux, je vous laisse faire ce que vous voulez, parce qu'il ne sera pas respecté. Donc après, c'est une question d'alchimie humaine.
Mais quand vous dites ça, on pense à Philippe Jordan et l'orchestre de l'Opéra.
Philippe
c'est
Jordan,
vraiment
qui est d'un pays où
une rencontre,
qui n'est pas loin de la France, mais néanmoins de tradition germanique. Bon, voilà, il a parfaitement rencontré l'orchestre de l'Opéra.
Alors, par le passé, on se souvient qu'avec Sylvain Cambronin, c'était quand même les montagnes russes, avec ce même orchestre.
Mais est-ce dû aussi à la qualité technique du chef aussi? Après, là, il y a beaucoup de...
Technique et humaine.
Et humaine, voilà, il y a beaucoup de...
Mais sur cette piste qu'évoquait Emmanuel Dupuis, qui remontait à quelques années, sur l'origine même des instruments, c'est intéressant, parce que est-ce qu'on sait si aujourd'hui, voilà, les orchestres français ont plutôt, font appel à des luthiers français, à des fabricants
non.
En français, ou est-ce que tout ça s'est internationalisé?
Tout ça s'est internationalisé aujourd'hui. Bon, il y a encore des fabricants français, bien sûr, mais bon, avec il y a un standard international qui fait que bon, la sonorité des instruments aujourd'hui est partout la même.
Parce que les mots qu'employait Emmanuel Giuliani pour parler de ce son français, ce sont des mots qui viennent de cette époque-là aussi, moment où ces instruments étaient effectivement un peu différents.
Et du répertoire
qui va aussi avec les instruments. Enfin bon, c'est tout ça lié au départ.
Non, mais c'est-à-dire que jusqu'à jusqu'aux années 1970, les orchestres français jouaient beaucoup le répertoire français et en priorité le répertoire français. Effectivement, plus ses caractéristiques purement sonores faisaient qu'à l'époque, il y avait vraiment une spécificité. Mmh. Mais ça s'est perdu à partir des années 70, quand Barenboim est devenu directeur musical de l'Orchestre de Paris. Là, c'est la même chose. Il a inculqué à cet orchestre Bruckner, Richard Strauss, et il en a fait un orchestre international. L'Orchestre de Paris n'a pas vraiment d'identité française aujourd'hui. On ne peut pas dire ça. C'est un orchestre qui joue le grand répertoire, quelle que soit la nationalité des compositeurs.
Mais c'est valable aussi pour les autres grands orchestres des autres pays qui, eux aussi, maintenant jouent des compositeurs du monde entier.
Oui, aussi. Alors,
de Boston, de Berlin.
Alors, effectivement, avec peut-être plus ou moins de bonheur. C'est vrai que quand l'orchestre de Berlin joue de la musique française, c'est vrai qu'il doit apprendre à alléger un petit peu sa patte. Ce qu'il a fait très bien sous la direction de Simon Rattle et aussi par le passé sous la direction de Karajan. Karajan, par exemple, lorsqu'il a enregistré Péléas et Mélisande avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, a fait venir à l'époque des instruments français, justement, pour retrouver une couleur assez spécifique.
Intéressant. Lucille Comeau,
je remarquais avec amusement qu'en fait, l'opposition qui se crée, c'est uniquement avec les orchestres allemands et qu'on ne compare pas les orchestres français avec les orchestres anglo-saxons. Comme quoi, il y a vraiment quelque chose de très fondamental dans cette opposition-là.
Les orchestres britanniques, par exemple.
Disons que les orchestres anglo-saxons ont peut-être moins d'identité
puis propre, de répertoire.
Parce qu'il y a un répertoire moins vaste.
Mais voilà, parce que déjà ce sont des orchestres qui appartiennent à des pays où il n'y a pas une vraie
quelques grands compositeurs, pas le même nombre qu'en France.
Il n'y a pas une tradition comme en France et comme en Allemagne. Et ce sont des orchestres beaucoup plus polyvalents, d'une certaine manière.
Mais ce qui peut donner de l'excellence, le Alesso, évidemment, et bien d'autres.
Et les orchestres américains. On vient de l'entendre,
les orchestres américains.
Quelques jours, c'était. Il y a un orchestre assez universel, qui est le Concertgebouw d'Amsterdam.
Ouais. Oui, c'est
qui
vrai.
Réussit on a vraiment l'impression, un côté caméléon, tout en gardant son identité, ce qui est quand même la quadrature du cercle, et il y arrive, à être complètement straussien, malorien. Bon, ils ont eu aussi dans leur chef du passé de grands tenants de ce répertoire. Et quand ils font un Daphnis et Chloé, si Ravel était dans la salle, il applaudirait des deux mains. Voilà, là, c'est un orchestre à peu près parfait, et pour lequel on ne se pose plus du tout de questions. On ne se dit pas quel est l'esprit néerlandais, ça. Bon. Autre petit salon.
Bon, un petit salon à venir. Le deuxième sujet de notre dispute musicale ce soir est un autre opéra, mais en DVD cette fois, Parsifal de Richard Wagner, mis en scène par Dmitri Tcherniakov sous la direction de Daniel Barenboim, qui sort donc en Blu-ray et DVD chez Bel Air Classique, dans une réalisation à souligner d'Andy Sommer. Pour ce festival scénique sacré, que selon l'appellation de Wagner, on reste dans le registre des croyances, parce que le compositeur allemand, également auteur du livret, bien sûr, ce livre-là, une sorte de syncrétisme mêlant références chrétiennes, bouddhistes, ésotériques, bien sûr la légende du Saint Graal, qui nourrit ce dernier opéra de Wagner, créé en 1882 lors du second festival de Bayreuth. On écoute tout de suite un extrait de cet ouvrage.
Die Mutter
Voilà pour cet extrait de ce DVD qui vient de sortir chez Bel Air Classique de Parsifal, Emmanuel Giuliani.
D'abord, je voudrais vous remercier de l'avoir mis au programme, parce que comme Parsifal, c'est très long, on ne l'écoute finalement pas si souvent, et on a tort.
Et qu'est-ce que c'est beau.
Il faudrait vraiment l'écouter minimum une fois par mois, parce que c'est tellement beau, cette musique. Et voilà. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur cette production, mais rien que pour ça, vraiment, c'est une drogue dure. Mmh. Et voilà.
Est-elle rendue plus dure par la direction de Daniel Barenboim, puisque vous commencez par la musique?
Alors,
selon
je
vous.
Dirais oui et non. Le prélude, notamment le début du prélude, je me suis dit, ouïouïouï, c'est très très lent, très étiré, et je vais faire ma pédante, il n'y a pas ce que dit Proust à propos de la... Enfin, il fait dire à Swann à propos de la sonate de Vinteuil, c'est-à-dire que les silences, il faut se souvenir des notes qui ont été jouées quand elles ne le sont plus, quand on aborde les suivantes. Mmh. Et ça, je trouve que, notamment dans le prélude, où il y a ces magnifiques silences, mais qui doivent être complètement frémissants de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer, là, ça n'y est pas tout à fait. Et à certains moments, notamment dans le grand récit final de Parsifal, avant le dévoilement du Graal au troisième acte, etc., là aussi, ça retombe un peu. Je trouve que la direction, qui a des choses absolument magnifiques, il y a des textures d'orchestre, enfin, d'après ce que j'ai entendu sur avec le Blu-ray, très très belle, il y a beaucoup de finesse, beaucoup de recherche, mais ce n'est pas tenu, me semble-t-il, même si c'est très très bien, c'est pour chipoter, mais tenu de bout en bout.
C'est pas tenu pendant 4 heures.
Bon. Voilà.
Emmanuel Dupuis,
je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel. Je trouve que, bon, effectivement, le premier acte est très lent, puisque il dure 1 heure et 44 minutes exactement, ce qui est quand même, ce qui dénote quand même une certaine lenteur. Mais en même temps, au sein de cette lenteur, je trouve que Barenboim arrive toujours à tenir l'attention et à la fois ce sens du détail instrumental très très précis, très très raffiné, et en même temps je trouve qu'il maîtrise bien les grands équilibres architecturaux, et c'est ce qui est extrêmement difficile dans Parsifal, c'est de construire cette arche immense sur la longueur des trois actes. Après, les deuxième et troisième actes sont beaucoup plus animés, il y a beaucoup plus de théâtre, ça file droit, c'est ce qui veut dire qu'il y a, voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait dans cette direction à la fois la dimension méditative qui est propre à l'ouvrage et en même temps un aspect théâtral qui transparaît vraiment à travers la musique.
Plateau vocal, Emmanuel Giuliani?
Alors, plateau vocal assez inégal, mais quand même à...
Très homogène.
Mais quand même à bon niveau. D'ailleurs, moi, je n'aime pas du tout le Homme Fortas.
Ouais, c'est gênant. Voilà,
qui est un peu brut de décoffrage.
Qui est un peu brut de décoffrage, qui, lui non plus, on parlera après de la mise en scène, n'est pas aidé par la représentation que Dmitri Tcherniakov en fait, dès le début et jusqu'à la fin de l'ouvrage, et qui, voilà, il a peut-être ils ont tous les plus beaux moments, mais enfin, c'est absolument bouleversant, et c'est vrai qu'Homme Fortas, on devrait pleurer, avoir la chair de poule, être dans un état émotionnel inqualifiable, et avec lui, on ne l'est pas vraiment.
C'est pas Peter Mattei, quoi.
Absolument. Ouais, mais qui, dans un DVD...
Mais personne n'est
Peter
Mattei, sauf...
On trouve aussi... voilà.
Ouais.
C'est, me semble-t-il, très dominé par la Kundry de Anya Kampe, qui, même si vocalement, on peut ici dire « Ah, oui, il y a un tel aigu », etc., mais qui a un tel engagement, une telle ligne, une telle évidence dans la manière dont elle est bouleversée par son personnage, dont elle le crée au fur et à mesure qu'elle le chante. Enfin, c'est vraiment une artiste absolument magnifique. Et par René Pape, qui est vraiment un gurnement de
légendaire déjà.
Absolument légendaire. Moi, je préfère Georg Zeppenfeld, qui pour moi actuellement est le Gournemanz, parce que la voix est encore plus belle, la ligne de chant encore plus... Mais c'est magnifique ce que fait René Pape. Et comme c'est vraiment le rôle principal de l'opéra, Gournemanz, et c'est pour ça que je reproche, entre guillemets, plein de guillemets, un peu à Barenboim, de ne pas assez justement le soutenir. Moi, je n'ai pas ressenti au premier acte la tension que vous disiez, Emmanuel. Je trouve que dans les grands récits de Gournemanz, il aurait fallu que l'orchestre soit encore plus dense pour pouvoir porter ce récit. Mais c'est un très très grand chanteur qui a ce rôle
Mais oui, c'est libre, c'est totalement épanoui. Il y a la sculpture du mot en permanence, et puis le gâteau. Enfin, c'est absolument magnifique. Je suis totalement d'accord avec vous sur Anja Campeux. C'est l'incarnation de la féminité torturée. C'est-à-dire qu'elle est à la fois onctueuse et déchirée, à la fois maman et putain. Enfin, c'est vraiment exactement le personnage. Et puis il y a une découverte, enfin ce qui sera une découverte pour beaucoup de mélomanes français, parce que pour l'instant il n'a pas fait beaucoup parler de lui chez nous, c'est Andras Schager, qui est le nouveau ténor wagnérien dont on parle beaucoup en Allemagne et en Autriche.
Donc Parsifal ici.
Qui incarne Parsifal, et je dois dire que j'étais vraiment très très convaincu, parce qu'il y a à la fois beaucoup de vaillance, beaucoup de lumière et beaucoup de jeunesse dans son timbre. Alors c'est peut-être moins artiste que ce que fait Jonas Kaufmann, plus franc du collier probablement, mais c'est quand même tout à fait estimable.
Mais il a l'air, c'est un DVD, d'avoir une très belle présence scénique. Je ne sais pas si vous l'avez vu depuis la salle, ce chanteur.
Non, moi,
déjà.
Je ne l'avais pas vu.
Il m'a semblé qu'il était, mais là, enfin, on ne va peut-être pas partager, vous n'allez peut-être pas partager mon avis, mais la direction d'acteur de Tcherniakov, moi j'y suis très sensible, et je trouve que quand même ils sont très caractérisés les uns et les autres. Alors on peut être en désaccord sur les choix, mais en tout cas il fait vraiment exister des personnages. Après on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il en fait, Emmanuel Dupuis.
Oui, il fait exister. Effectivement, avec Tcherniakov, tout est toujours réglé au millimètre, et effectivement, et on admire le soin apporté à la réalisation après. Cette réalisation, est-ce que elle est très originale? Moi, j'ai pas trouvé, parce que tout se passe dans ce qui ressemble à une église désaffectée qui aurait été transformée en gare, en entrepôt.
Un peu un SAMU social aussi.
Peut-être, oui. Ou la confrérie du Graal, alors on ne sait pas trop. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que... Bon, a priori, oui, c'est ça. Mais enfin, ça, c'est des choses qu'on a quand même assez souvent vues.
Ouais, ouais, ouais.
Ça se passe probablement dans un pays froid, parce qu'ils sont tous des bonnets et des manteaux.
Et des chapkas.
Voilà. Donc tout ça n'est pas original. Ce qui n'est pas original non plus, c'est de voir un Parsifal qui débarque avec son sweat à capuche. Ça aussi,
on l'a vu beaucoup.
Déjà vu. Il y a des moments qui frisent vraiment le didactisme. Par exemple, pendant le grand récit de Gournemanz, au premier acte, Gournemanz fait une projection diapo pour illustrer ce qu'il raconte. Donc on a l'impression qu'à ce moment-là...
Ce sont les images de la création
de Parsifal. On a l'impression qu'à ce moment-là, Tcherniakov n'a pas su quoi faire de ce grand monologue.
Il a fait une soirée diapo.
Et même chose à l'acte 2, pendant le grand monologue de Kundry. Là, ce sont des figurants qui viennent mimer ce que raconte Kundry. Donc c'est... Voilà. Alors après, il y a des choix, moi, que j'ai trouvé contestables de faire d'Homme Fortas une figure christique. C'est-à-dire que, au premier acte, pendant la cérémonie de l'Eucharistie, on vient recueillir le sang de la plaie d'Homme Fortas qui en plus est filmé en gros plan. Donc, âme sensible, s'abstenir. Et les officiants boivent le sang d'Homme Fortas. Donc, il faut savoir,
c'est un peu à la lettre, quoi.
Est-ce que c'est Parsifal? Est-ce que c'est le bal des vampires? On sait plus trop. Et j'ai trouvé la fin d'un total arbitraire, et ça se termine comme un crime passionnel d'une certaine manière, puisque à la fin Kundry embrasse goulûment Homme Fortas, on ne sait pas trop pourquoi, et Gournemanz vient poignarder Kundry.
Moi j'étais très ému par cette fin, ça m'a complètement saisi.
J'ai pas compris pourquoi.
Le crime passionnel?
C'est pas le sujet. Je crois que c'est pas le sujet de Parsifal, le crime passionnel. C'est pas Carmen, hein.
Emmanuel Giuliani, quelques mots sur cette mise en scène, cette vision de Tcherniakov.
Oui, c'est assez compliqué, parce qu'il y a en effet de très belles choses, notamment dans la direction d'acteur. C'est vrai, comme vous l'avez dit, Arnaud, et moi que je trouve criant avec Anja Campeux, qui
dès le début,
véritablement
dès le lever de rideau.
Et également au troisième acte, où à part les Dinon, elle n'a rien à dire et à chanter, mais elle est là
mais
tout le temps.
Elle a une présence
absolument magnifique, et ça vraiment, c'est exceptionnel. Que faire en effet de cette dimension mystique et de cette dimension peut-être un peu compliquée, mais enfin, il y a une affaire de transsubstantiation, enfin, voilà. Alors, on l'affronte ou on l'affronte pas. Et à certains moments, il l'affronte quitte à la faire un peu gore et caricaturale avec Amfortas. À d'autres moments, il l'évite et on se dit pourquoi cette fin qui vous a ému. Moi, je suis un peu comme Emmanuel de me dire, oui, ça m'avait fait penser à ce qu'il avait fait dans Macbeth, où à certains moments, c'était noce chez les petits bourgeois, enfin meurtre chez les petits bourgeois plutôt. On n'était plus du tout dans ce, dans cette fable de fureur et de pouvoir. Donc, on est très ballotté et on se dit, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas ce qu'il veut, ou est-ce que c'est lui qui choisit tout en même temps, ou ne sait pas quoi choisir, et finalement vous laisse un peu au milieu du guet. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Moi, j'avoue que je ne sais pas très bien quoi faire de cette mise en scène, et notamment aussi, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais il faudrait parler aussi des filles fleurs. Là, on est plutôt dans Bethlehem. Voilà.
Et de vieillard libidineux et volontiers pédophile.
Pour Klingsor.
Ça, c'est pas mal fait, mais bon, après, mais
pareil, pourquoi c'est un peu fastoche. C'est ça. Il y a des choses un peu fastoches.
On a l'impression qu'il y a à la fois des choses conventionnel et pas mal l'arbitraire, quoi. Et entre les deux, du coup, ça fait quelque chose qui est...
Moi, je le préfère plus arbitraire, Tcherniakov,
tant qu'à y être. Mais tant qu'à faire, effectivement,
qui est vraiment un parti pris
plus radical, comme Romeo Castellucci, par exemple, dans Parsifal, avait eu un parti pris beaucoup plus radical et beaucoup plus convaincant, sans aucun doute.
On peut renvoyer aussi à ce DVD dont nous avions parlé, effectivement, ici, pour cette mise en scène, Romeo Castellucci. Pour l'heure, nous parlions de ce Parsifal de Wagner, mise en scène Dmitri Tcherniakov, direction Daniel Barenboim en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et plus un post-scriptum ce soir qu'un vrai troisième sujet, parce qu'on va avoir peu de temps, mais bon, on va parler de deux ouvrages importants. C'est des concertos pour deux violons d'Antonio Vivaldi, gravés par Giuliano Carmignola et Amandine Beyer pour Harmonia Mundi. Quatre concertos choisis par les deux interprètes parmi la trentaine, écrits par le compositeur. On écoute tout de suite un extrait de ce disque.
Thank you.
Voilà pour cet extrait de ce disque comportant 7 concertos pour 2 violons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4 tout à l'heure. Emmanuel Giuliani.
Vous savez, c'est un peu comme dans ces pubs pour des bons produits ou le bio, etc. On vous dit, ah, qui vous fait du bien. Ben, c'est vraiment, moi j'ai écouté ce...
Je crois que c'est péjoratif, votre entrée en matière.
Non. Alors, elle pouvait l'avoir l'aide, mais vraiment, au sens fort du terme, un disque qui fait du bien. D'abord parce que cette musique est très belle, très variée, dans une nappe apparence, familiarité, on se dit 7 concertos du Vivaldi. On a souvent l'habitude de dire Vivaldi, oui, c'est de la musique au maître, il fait tout le temps la même chose, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Et quand on y prête justement l'oreille, comme nous y invitent Amandine Beyer, Giuliano Carmignola et Eliane Cogniti, on se rend compte de toutes les variations, toute l'ironie, toute la tendresse, tout le dialogue, tout le théâtre qu'il peut y avoir sous des formes miniatures parfois, mais dans ses œuvres. Donc c'est un vrai plaisir. En plus, le programme est très, très bien composé, avec quelques plages absolument magnifiques. Et puis, ça fait du bien de voir aussi et de savoir Carmignola, qui est vraiment, tant de violonistes baroques, un père, un oncle, un ami, un cousin, une référence. Et voilà, et la manière dont Amandine Beyer travaille avec lui, donc c'est très touchant et ça marche. Alors après, on peut se dire que ça a un côté un peu, par moments, spontané, qu'ils auraient pu retravailler éventuellement un peu telle ou telle plage, telle transition. Mais la vie, la simplicité, la bienveillance et la joie qui s'en dégage compensent tout ça. Et vraiment, je trouve que c'est un grand moment de bonheur musical.
J'adhère tout à fait. Je veux dire, quand j'ai mis ce disque chez moi, ça m'a fait du bien tout de suite. Et ça a continué. Emmanuel Dupuis.
Je me demande comment on peut effectivement résister à... au plaisir de l'écoute de ce disque, parce que c'est effectivement, comme l'a dit Emmanuel, la rencontre entre deux des plus grands violonistes baroques du moment, qui sont de générations différentes, de cultures différentes.
C'est ça qui est beau aussi.
Et pourtant, bien là, tout au long de ces 7 doubles concertos, enfin 6 doubles concertos plus un concerto à 4, ils parlent toujours la même langue. Au point qu'il est totalement impossible de reconnaître qui joue quoi. Je veux dire, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils s'influencent en permanence. Ouais,
parce qu'a priori, ils n'ont pas le même tempérament de jeu. Enfin, on peut très bien les distinguer séparément. Oui, mais c'est vrai que là, il y a une fusion très belle.
Oui,
hein, parce une rencontre.
Parce qu'il y a une rencontre, parce qu'ils s'influencent en permanence l'un l'autre. Il y a une qualité de dialogue musical qui est absolument phénoménale. C'est pas une joute purement virtuose, parce que la difficulté de ces concertos, en réalité, c'est de les habiter, parce que soit on en fait simplement un exercice de virtuosité et ça devient un peu vain, mais là c'est pas ça du tout. C'est vraiment, oui, habiter, autant dans les mouvements rapides qui pourraient être de simples démonstrations virtuoses, et puis surtout dans les mouvements lents qui sont parfois d'une poésie absolument absolument fabuleuse. Et puis effectivement, partout on s'extasie devant l'inventivité de Vivaldi. Stravinsky a eu tort quand il disait que Vivaldi a composé 500 fois le même concerto. C'est absolument faux. Il y a une variété d'écriture, d'affect, de couleurs qui est absolument fabuleuse, quoi. Donc c'est très réjouissant.
Une émulation joyeuse dans les mouvements les plus rapides. Et c'est vrai qu'il y a une très grande profondeur quand même dans ces mouvements plus lents. Je trouve qu'on parle pas assez, on montre surtout pas assez d'opéra de Vivaldi. Alors certes, c'est pas très simple et c'est pas très, mais il y a eu beaucoup de disques sortis ces dernières années que moi j'écoute avec un plaisir immense, parce que c'est un très grand compositeur qui reste quand même bloqué sur les répondeurs téléphoniques d'attente, les musiques d'attente des 4 saisons. Non, mais c'est quand même
Il faut pas, surtout pas résumer l'œuvre de Vivaldi.
Non, mais c'est pour ça que c'est important de dire que c'est un compositeur d'une richesse.
Bien sûr, la musique sacrée est absolument fabuleuse.
Et puis même si c'est un peu cliché, quand un enregistrement Vivaldi est réussi, c'est le cas, on a vraiment ce sentiment profondément vénitien de clapotis, de mouvements qui à la fois vous grisent, vous donnent un léger vertige, voire un tout petit peu de nausée, mais de nausée qu'on accepte, comme quand on est sur l'eau, et puis ça repart, le soleil arrive, on est joyeux, un petit nuage, et c'est cette mélancolie, cette poésie. Il y a vraiment cet aspect, et qui vous file entre les doigts. File entre les oreilles et on en est heureux, quoi.
Mais Dupuis, pour finir?
Oui, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que c'est aujourd'hui le le très haut niveau technique atteint par les musiciens baroques. Et ça, c'est vrai pour Carmignola et Amandine Beyer, mais c'est vrai aussi pour les musiciens de l'ensemble Les Incogniti qui les accompagnent. C'est d'une qualité de réalisation instrumentale absolument fabuleuse. Aujourd'hui, effectivement, parmi les baroqueux, il y a de très grands virtuoses. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Et ce disque-là, on est vraiment la preuve.
Et elle fait un travail, c'est vrai, magnifique. Enfin, depuis oui. Tous les disques qu'elle a pu faire et les concerts. C'est une immense artiste.
Tout à fait.
Alors, on va retrouver sur ce disque paru chez Harmonia Mundi. Donc, et puis, on va retrouver les deux interprètes qui seront ensemble le 27 avril prochain à la salle Gaveau. Et avant cela, Monet de Beyer sera avec Jean-Guy Inqueras et Les Incogniti au Flow, Port des Invalides à Paris, le 8 novembre prochain. C'est la première des rencontres organisées par le label Harmonia Mundi. On conclut cette émission avec le jeu de la dispute. D'abord un rappel du jeu d'hier soir, Lucille Comeau.
Alors, dans le premier film de Paul Vecchiali, Les Petits Drames en 61 films aujourd'hui disparus, apparaissait l'actrice qui est depuis toujours son idole. Qui est-elle? Et la réponse est Danielle Darrieux.
Ce soir, cinéma encore, des places pour le film Poesia sin fin de Alejandro Jodorowsky, actuellement en salle, la question.
Alors, Alejandro Jodorowsky, je le dis à la française, a écrit un film d'une qui n'a jamais été réalisé. Il en avait fait réaliser en revanche un storyboard qu'il avait dessiné.
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Emmanuel Giuliani, Lucille Comeau et Emmanuel Dupuis. Merci à l'équipe de la dispute, Virginie Le Duo, Josué Morel, Boris Pino. Merci à Manuel Couturier qui a assuré la prise de son ce soir et à Daniel Finot qui en assurait encore la réalisation. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Philippe Chevillier et Daniel Martin. Notre affiche, La Chef, roman d'une cuisinière de Marine Diaye, Une mort qui en vaut la peine de Donald Ray Pollock, Le noyau blanc de Christophe Hein et Le Titanic fera naufrage de Pierre Bayard. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.